Marceau le midi.
Midi 34 minutes, vous êtes dans Marceau le midi. Pascal CV qui est là. Ma fidèle compagnonne.
Tranquillement, pas vite, à chaque ouverture de bloc, tu changes comment tu me considères.
Des J'essaie gens qui... de voir ce qui te plaît, ce qui te déplaît.
Déjà, ça, c'est mieux, je trouve, que tantôt. Quelqu'un a proposé l'elfe de maison de Yannick. C'est un peu une référence à Harry Potter. Je suis pas tant dedans. Je sais pas si tu as vu la face à Dobby. Là. C'est le premier qu'Audrey a frenché dans sa vie.
Tu pourrais être Dobby.
Je l'ai montré la semaine passée. Pas très cute.
418-971-101, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci de nous informer. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. La personne qui est devant moi, c'est quelqu'un que j'aime bien au Parti libéral du Québec. Moi, je le voyais comme grand chef du Parti libéral du Québec. Puis à un moment donné, il a dit « Non, Yannick, j'y vais pas. J'ai pris ma décision. Je vais me concentrer sur ma job de leader parlementaire de l'opposition officielle. » C'est mon chef de Régie. Comment allez-vous, M. de Régie?
Oui, merci beaucoup, M. Marceau, de m'inviter. En bonne compagnie, je vois la complicité entre vous deux.
Ouais.
J'aime savoir.
Ça s'améliore, ça fait deux jours qu'on est ensemble.
Bon, au téléphone, on ne le voit pas, mais maintenant, je suis honoré d'être en studio aujourd'hui et je vois cette complicité, c'est excellent.
Là, vous avez passé la fin de semaine à Québec. Faites-vous des activités quand vous passez la fin de semaine à Québec?
Je marche. J'aime ça marcher beaucoup. Moi, vous savez, avec des longues semaines qu'on a, 6 heures au Parlement jusqu'à parfois 9-10 heures, c'est de très longues journées. C'est un sport extrême, la politique. Moi, j'adore marcher. Si je suis à Montréal, ben, je joue au soccer chaque vendredi soir. Pour moi, c'est un moment où je me déconnecte de tout.
Ouais.
C'est un sport extrême.
Dans une ligue politique que vous jouez? Parce que moi, j'avais déjà entendu dire qu'il y avait des ligues sportives entre attachés de presse, gardes du corps et politiciens.
Et qui doivent en profiter pour se venger.
Je sais pas, hein?
Non, vraiment, c'est des amis de longue date. On joue ensemble, ça fait presque 20 ans.
C'est plus sécuritaire comme ça.
Ça joue vraiment fort. Et ça joue vraiment fort. Et tant mieux, parce que ce n'est pas un moment pour moi de parler politique. T'sais, vraiment, je veux faire le vide, le reset de mon cerveau. Et ma femme, qui aime ça maintenant, si je ne joue pas au soccer, elle m'a dit, non, tu dois aller jouer, parce qu'il voit la différence entre un vendredi où je ne joue pas, le samedi matin, et si je joue, il voit une différence. Donc, il me pousse vraiment à garder cette pratique.
T'avais pas un chum avec une badaine?
Non, du tout. Ouais, les saines habitudes de vie pour un doctorant en santé publique, ça marche pas ça à la maison.
Exact.
Du tout.
Exact. Comment ça fonctionne? Vous êtes député de Nelligan. Mm-hmm. Vous travaillez la plupart du temps à Québec à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Comment vous partagez votre temps entre votre comté puis l'Assemblée nationale?
Au comté, je suis là vendredi et lundi et les semaines de relâche quand on siège pas à Québec. Donc, je suis dans mon bureau. J'ai une équipe à mon bureau de comté. Trois personnes qui travaillent très fort pour répondre aux questions des citoyens. Maintenant, avec Teams, on peut rencontrer même les citoyens à distance. Mais mon travail de leader, il est quand même très exigeant. Donc, parfois, je suis là lundi comme aujourd'hui. Parfois, je quitte vendredi parce qu'on a des événements à Québec et on veut se reconnecter avec les Québécois. Il ne faut pas que j'assiste uniquement à des événements dans mon comté ou à Montréal.
Ouais.
Ce vendredi, j'ai eu la chance de rencontrer les armateurs du Saint-Laurent, où j'ai rencontré beaucoup d'acteurs de l'industrie maritime. Donc, pour moi, c'est très important sortir de Montréal, sortir de mon comté, être à l'écoute des gens, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils voient comme opportunité, comme enjeu, et contrôler l'action gouvernementale. Donc, si on veut être performant et on est pertinent, il faut être sur le terrain et c'est ce que j'essaie de faire.
Oui, puis rester à Québec encore pour quelques jours. Je lisais en fin de semaine qu'à Montréal, on n'allait pas finir de déneiger avant le mois de mars.
Bon, je pense que sur ce point, Montréal doit s'inspirer de Québec parce qu'à Québec, je ne vois aucune trace de neige. Malheureusement, à Montréal, les gens souffrent encore qu'il y a de la neige dans leurs ruelles. C'est triste de voir ça, qu'on paye beaucoup de taxes avec un service médiocre.
C'est quoi la différence aussi alarmante entre Québec et Montréal, selon vous, dans le déneigement?
Clairement, il y a une ville qui réussit très bien son déneigement, la capitale nationale, et une ville qui
n'a pas
réussi.
On déneige même quand il neige pas. Je comprends qu'on le réussit, là. Mais pour
ça
vrai...
Ça a bien été quand même cette semaine. Moi, écoute...
Oui, on n'a rien à dire. Ça, on l'a vécu, puis mon collègue et moi, Maxime, qui travaille ici, on était autant à Montréal qu'à Québec dans ces tempêtes-là, puis on a vu la différence qui était flagrante. Mais à un moment donné, on ne comprenait pas pourquoi c'était aussi différent.
Probablement, écoute, je ne suis pas un expert en déneigement, mais je pense qu'il y a beaucoup de ruelles, la superficie de la ville, c'est énorme, le matériel, la disponibilité du matériel, c'est quand même complexe, mais une semaine, c'est beaucoup, parce que le rôle de la ville, à part les pistes cyclables, bien entendu, c'est le déneigement et s'occuper des parcs. Donc, je pense qu'ils ont une mission à faire parce que les Québécois s'attendent, quand ils payent des taxes, d'avoir les services adéquats qui viennent avec.
Ouais. C'est rough pour la famille, la politique?
Oui, très difficile. Ouais. Je suis chanceux. Ma conjointe m'aide beaucoup et je la remercie. Je ne sais pas s'il m'écoute maintenant, mais je suis très heureux d'avoir...
Quand vous êtes trop souvent là, dis-tu, retourne-donc à Québec.
Si elle n'écoute pas, on peut lui dire à la maison aussi. Là,
oh oui, ça ne va pas m'aider là. Non, la politique, c'est très difficile. Ouais. Et vous avez vu ma collègue Marois.
Oui.
C'est une femme extrêmement compétente. Elle travaille très fort. Ouais. Son mari aussi, Greg, c'est un couple Didier. Les deux font de la politique. Et je dois vous dire, c'est triste que rendu à un certain moment, on doit choisir. Je pense qu'on a besoin de Greg, on a besoin de Marois, on a besoin de beaucoup de jeunes, on a beaucoup de collègues qui travaillent très, très, très fort. Mais c'est très difficile. C'est la politique pour la famille. Et surtout, concilier que tu veux être un bon père, jouer en ton rôle en tant que maman, mais aussi tu veux être un bon député. Peu importe, ministre ou pas, à l'opposition au gouvernement, les gens nous ont donné une chance. On est 125 élus, on est chanceux. On doit être à la hauteur de la population. Et donc, si tu veux faire ça, et tu ne veux pas passer inaperçu, parce qu'il y en a qui ne veulent rien faire. Je ne cible personne, mais si tu viens en politique, c'est pour pouvoir changer les choses. Tu ne veux pas être comme le gars qui vient et qui ne fait pas bouger les choses. C'est très difficile pour la famille, la politique.
C'est l'absence qui est plus difficile ou c'est les répercussions sur les enfants, du genre mon père pense d'une telle manière, il gère en... question, puis il se fait mitrailler dans les médias, donc je suis un petit peu associée aux propos de mon père puis à la façon de gérer sa politique. Qu'est-ce qui est le plus difficile?
C'est une très bonne question. Moi, je pense ça prend de la discussion avec les enfants. Moi, je me rappelle, et ça me fait rire parce que M. Marceau, tout à l'heure, a posé la question sur la chefferie. Je ramenais mon fils un vendredi soir à ma compagnie à jouer le soccer et il m'a posé une question qui m'a vraiment interpellé. Il m'a dit, j'ai entendu papa sur une station de radio la question sur la chefferie. Il m'a dit, il m'a dit que j'ai entendu que tu ne vas pas être là. Et tu dois être partout, je comprends. Et je lui ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Il m'a dit, je veux que tu sois avec moi. Donc, c'est ça la réalité, c'est que au-delà de avoir des idées, d'avoir un projet de société, mais à un certain moment, il faut écouter nos proches. Nos proches, ce sont nos enfants et ma petite famille.
C'est pour la santé mentale, fort probablement aussi. Si vous êtes heureux dans la famille, vous allez être heureux en politique, vous allez être un meilleur politicien.
Absolument. Et à l'intérieur du foyer, il ne faut pas ramener uniquement les enjeux politiques parce que sinon, les enfants vont trouver ça plate. Il y a autre chose. Mes deux enfants, les deux jouent, ils sont très, très sportifs. Donc, je les accompagne les week-ends quand je suis là. Il faut être présent parce que ce n'est pas à eux de payer les frais que leur papa a choisi une vie publique et à faire de la politique. Donc, samedi, dimanche, c'est...
Mais on se reconnaît dans vos valeurs fondamentales. Ouais. Moi, à chaque fois que je parle de mon chef de régie, que ce soit dans la chambre d'hockey avec les gars, les gens voient à quel point vous travaillez fort, puis on se ressent... On ressent que vous avez des bonnes valeurs fondamentales puis que vous êtes en politique pour les bonnes raisons.
Ben, merci beaucoup.
Ça là, je vous donnais un break beaucoup. Parce que là, j'avais peur que vous commenciez à pleurer.
Moi, pas peur. Ça montre à quel point ça a été percutant dans le parcours. Ouais.
Je vais vous poser une question. Peut-être que vous avez la réponse ou peut-être que vous ne l'avez pas ou peut-être que vous ne me la donnerez pas. Mais qu'est-ce qu'Éric Kerr a dans son cellulaire comme photo compromettante ou comme information sur François Legault pour être toujours en poste à ce jour? Lui qui dénonçait du temps où il était dans l'opposition, les fois où il y avait des montants qui étaient épouvantables sur certains dossiers. Bon, on avait vu, on avait un budget de temps. Finalement, on dépasse de ça de 5, 10, 20 millions. Puis il déchirait sa chemise. On l'appelait le shérif. On était donc bien content qu'il brasse le premier ministre de l'époque. Puis aujourd'hui, Éric Kerr est la personne qui devrait avoir perdu son emploi de ministre depuis des années et des années, il est toujours en place. Qu'est-ce que ça dit, ça, sur François Legault?
Bon, moi, je pense qu'il le garde parce que c'est un soldat de longue date. C'est un ami proche. Il était là de tous les combats. Mais avec ce qui se passe avec la SAC, Éric Kerr a démontré son insignifiance et que son ministère ne sert à rien, tout simplement. Parce qu'il n'arrête pas de dire « moi, je suis juste responsable ». du service d'authentification gouvernementale, le fameux SAG, est la raison. Mais vous savez, souvenez-vous que lors de la création de ce ministère, on nous a vendu qu'on va avoir un shérif, parce que lui, il se voyait shérif, qui va être responsable de toute la transformation numérique. Mais force est de constater que malheureusement, il y a une perte de contrôle et que Eric Kerr ne sert à rien, tout simplement. Sur le dossier de sa clique, la responsabilité, elle est aussi sur Bonnardel et Mme Guilbeault. C'est démontré, le rapport de la vérificatrice générale du Québec le démontre clairement. Il y a trois problèmes dans le dernier rapport de la vérificatrice générale du Québec. Le premier rapport, comment ça se fait que les gens qui étaient là, le contrat, comment a été rédigé, l'appel d'offres, comment il a été gagné, il y avait une présence de ces gens autour de la table. Le deuxième, c'est que moi, j'ai fait une demande d'accès à l'information à tous les procès-verbaux de la SAC depuis les deux dernières années.
Ouch.
Et j'ai pu faire le lien direct entre les discussions au CA et ce que la VGQ vient de dire.
Est-ce qu'on vous l'a donné en 30 jours, ce rapport-là? Je trouve ça important de le souligner. Et est-ce qu'il était majoritairement caviardé?
Ah, une bonne partie caviardé. Et mon prochain combat, là, à partir d'aujourd'hui, je veux qu'on décaviarde cette information parce que les Québécois vont se rendre compte que deux ministres n'ont pas fait leur travail. C'est très clair. Pour moi, il y a le procès-verbal de juin 2022, le conseil de l'administration spéciale en septembre 2022 et un conseil d'administration en janvier 2023 où ils ont parlé du CASA. Moi, je la nomme maintenant CATA comme catastrophe parce que ce n'est plus un système qui aidait maintenant les citoyens. Et donc, les deux ministres disaient qu'ils n'étaient pas au courant. Comment ça se fait qu'un député de l'opposition est capable de mettre le lien entre l'ensemble des procès-verbaux de la SAC et les deux ministres n'étaient pas responsables? Comment ça se fait que c'est le gouvernement qui nomme le président de CA de la SAC et le PDG et n'ont pas de rencontre statutaire? Je vous donne un exemple. Ici, vous voulez entamer le plus gros projet de transformation numérique de la station radio. Ça vous coûte 1,1 milliard de dollars. Le patron va laisser la compagnie gérer ça?
Jamais.
Et arriver lui dire on veut 500 millions? C'est ça ce qui s'est passé à la SAC. Donc le patron va dire va faire confiance à la compagnie. Va faire confiance à votre directeur informatique ici à la station. Sans lui demander des statutaires, des indicateurs de transformation. On est rendu dans le coup? Et est-ce que tout fonctionne? Parce que si je ferme la radio trois semaines, je vais perdre des revenus. Et quand je la relance, je veux que ça soit parfaite. Le relancement de la radio.
Il n'y aurait jamais eu de fermeture pendant trois semaines. À prime abord, ça ne serait jamais arrivé.
Absolument. Et c'est ce qui s'est passé avec la SAC. Pourquoi ils ont fermé trois semaines, sachant que chaque jour, ils traitaient un flux important? Qui a donné le go pour que ça ferme trois semaines? Donc, c'est là où moi, je responsabilise M. Bonnardel et Mme Guilbeault. Il y avait des indicateurs rouges lors des discussions du conseil d'administration. Et ils disaient maintenant publiquement... Ni M. Bonnardel n'a pas eu ça, Mme Guilbeault n'a pas eu d'informations et bien sûr, Eric Kerr, il est toujours absent. Lui, on ne sait pas pourquoi il est là. Ben, je l'invite à parler. Si lui n'est pas responsable, ben, qu'il blâme sa collègue parce que maintenant, là, ça tombe sur sa tête. Ben, je pense qu'il peut parler, il peut vous appeler. J'espère qu'il nous écoute.
Monsieur Déragé, depuis que je suis petit, on me parle des leaders, un leader homme ou un leader femme qui sont responsables de certaines organisations. Quand il y a des bons coups, ces gens-là sont en haut puis ils reçoivent les félicitations et tout ça. Puis ces gens-là sont bien humbles en disant « Oui, on a réussi, mais je remercie aussi mon équipe en bas. » Puis on me dit aussi que quand il y avait des ratés, ben les leaders en haut, que ce soit homme comme femme, allaient dire constamment « Ben savez-vous quoi? Je prends le blâme sur moi, c'est arrivé dans mon équipe et c'est moi qui est responsable de cette équipe-là. » Il ne semble pas y avoir personne comme ça à la coalition Avenir Québec.
Ça n'existe pas ça chez la CAQ parce que vous les avez vus. Ils blâmaient les fonctionnaires. Ben, vous savez quoi là? Je me mets à la place des citoyens. Que eux travaillent très fort. Que eux, à cause que la SAC a complètement raté sa transformation, ils ont payé des amendes. Il y a des gens qui m'ont contacté et n'ont pas reçu l'avis et ils étaient obligés de payer l'amende et la facture.
Des gens qui ont perdu leur permis de moto, entre autres et autres aussi, c'est des investissements colossaux quand même dans un budget.
Il y avait un article dans le journal, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, mais l'homme s'est fait intercepter par un véhicule de la Sûreté du Québec et l'agent lui dit « Votre permis de conduire de classe 5 n'est pas valide » et l'homme de dire « Ben moi, j'ai payé tous mes trucs » et l'agent continue ses recherches et là se rend compte que son permis pour conduire un véhicule lourd est correct. Ouais. Donc, il ne pouvait pas conduire sa voiture, mais s'il était dans un camion à 10 roues, exemple, il pouvait le faire. Donc, le policier s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une problématique, puis il a laissé repartir l'individu. Mais le gars a dit, si ma blonde n'était pas dans le char avec son permis valide, probablement que je me serais fait remorquer. Là. Pensons à tous ceux qui se sont ramassés aux États-Unis, les camionneurs.
Ouais. Ouais.
Attendez un peu, là, vous pouvez pas passer, votre permis n'est pas valide, vous pouvez pas passer.
Puis c'est pas réglé assurément encore pour cet homme-là dont tu parles, là,
Et il y a personne qui s'excuse. Puis je me pose la question, tu sais, prenons exemple de la santé. Supposons que ça va pas en santé, je blâme qui? Est-ce que je blâme Christian Dubé ou je blâme la fameuse Top Gun?
Mais l'identité numérique!
Exact!
Il y a un projet de loi maintenant, ma collègue Michel Sitlakoui siège. Il a posé des questions pertinentes au ministre et il lui a dit hors sujet. Figurez-vous, il n'y a pas longtemps, là, la semaine dernière, jeudi, il lui a posé la question sur l'identité numérique. Est-ce que pensez-vous que maintenant les Québécois vont encore croire Éric Carré la CAQ par rapport à l'identité numérique? Écoute, il l'a raté à la SAC. 1,1 milliard. Et là, on va le croire sur l'identité numérique et sur la transformation du réseau de la santé. Mettez-vous à la place de ces gens qui nous écoutent. 1,1 milliard de pertes et aucun ministre n'est responsable. Ben, ils ont le droit de dire à quoi sert un ministre maintenant? Ben, donnons le pouvoir aux fonctionnaires. S'ils font une erreur, on va les congédier.
Parce que ça aussi, c'est important de savoir. Parce qu'on parle souvent de la lourdeur administrative, à quel point c'est difficile, puis qu'au final, quand on a des bons candidats en politique, ils n'ont pas nécessairement toutes les mains pour pouvoir faire avancer des projets vu que c'est des gros paquebots dans les ministères. Si c'est le cas, il faut l'indiquer en ce sens-là. C'est pas une histoire de à qui appartient la défaite en général. Il ne faut pas que ça devienne un caractère politique de se taper sa tête non plus. Mais sauf qu'il faut prendre les responsabilités si on est le leader d'un ministère.
Vous avez raison, mais on ne parle pas d'un ministère, hein? On parle d'une société d'État. Une société d'État avec des PDG, des vice-présidents très bien payés.
Mais à la base, mettons, ceux qui sont à la tête de certains ministères qui les gèrent, est-ce qu'ils ont un pouvoir, selon vous, sur ça?
Les sous-ministres.
Ben absolument. Okay. Moi, je vais vous dire, si j'étais ministre du transport et j'avais le plus grand projet de transformation numérique, moi, le président de CA, je vais avoir des rencontres statutaires avec lui. Quand vous allez me dire que les indicateurs sont au rouge ou au vert, expliquez-moi le déroulement. Combien de rencontres M. Bonnardel et Mme Guilbeault ont eu avec le président de CA? Combien de rencontres ils ont eu avec le PDG? Je vais aller même encore plus loin. Vous savez, si vous voulez, ça, moi j'ai siégé sur une société d'État et je suis certifié en gouvernance de société. Si je suis ministre et je ne veux pas, parce que j'entends beaucoup ça, parfois la machine ne te donne pas toute l'information. Le ministre peut convoquer le CA et aller les rencontrer. Je suis capable d'écouter ce qui se partage et demander un huis clos et assister avec le président de CA. Est-ce que tous les paramètres sont au rendez-vous? Comment ça va la transformation? Est-ce qu'il y a des enjeux de ressources humaines?
Alors, c'est de la négligence, selon vous?
Absolument. On ne peut pas aujourd'hui. C'est pour cela que votre question tout à l'heure, M. Marceau, est très importante. Ils l'ont raté à la SAC. On ne peut pas signer un chèque en blanc par rapport à l'identité numérique et par rapport à la transformation des réseaux de la santé. Il y avait de la négligence au niveau ministériel qui n'ont pas pris la transformation numérique au sérieux. Et malheureusement, on se ramasse, nous, Québécois, à payer 1,1 milliard au minimum. J'ai posé la question à la vérificatrice générale. Ce n'est pas uniquement 1,1 milliard, là. Ça risque d'être plus.
Ah oui, ça va probablement être plus. Mais
je vais vous surprendre.
Ouais.
Il y a une étape qui est complètement arrêtée. Complètement arrêté, il va y avoir deux systèmes d'informatique à l'intérieur de la SAC maintenant. Et c'est ça qui est hallucinant. Et on dit aux Québécois, les trois ministres, il n'y a personne qui est responsable. Il n'y a personne qui va vous dire, je suis responsable, je n'ai pas fait très bien ma job. C'est hallucinant.
Une fois qu'on va avoir Mobilité Infra-Québec là, qui va arriver en place, là, l'agence de transport, c'est qui va gérer ça? Est-ce que c'est le politique? Parce que là, mettons qu'on prend le système de santé, Christian Dubé, ministre de la Santé, puis à côté, on a la fameuse Top Gun. Ben, si ça va pas bien, on blâme qui? On blâme la Top Gun ou on blâme Christian Dubé? Même affaire pour ce qui est du ministre des Transports. Est-ce que ce sera la personne qui va être à la tête de Mobilité Infra-Québec qui va être responsable ou c'est vraiment la ministre des Transports qui va être responsable? Vous allez gérer ça comment?
Ben, écoutez, nous avons en face de nous un gouvernement qui, pour gagner le pouvoir, a dit à tout le monde qu'il veut limiter l'appareil gouvernemental. Maintenant, ce qu'on voit, c'est un vrai modus operandi de la CAQ. Il voit les problèmes, il nomme des Top Guns. Parce qu'on le voit avec Dubé maintenant. Mon collègue André Fortin se lève chaque semaine Et à chaque fois qu'il lui pose une bonne question qu'il ramène d'une région pour parler d'un enjeu, il essaie de porter le blâme sur Santé Québec. Mais pourquoi t'es ministre de la Santé? Démissionne. Laisse Geneviève Biron venir au Parlement. On va lui poser la question. Si c'est elle qui est imputable, si c'est elle qui est responsable. C'est la même chose avec Mme Guilbeault. Quand il va nommer son Top Gun à 300 à 400 000 $ dans quelques semaines...
Elle ne sera jamais plus imputable de rien.
Bah pour le transport collectif, il a dit que l'agence va gérer les grands projets. Mais je me demande, il est où l'argent? Elle dit publiquement, Mme Guilbeault, qu'il n'y a plus d'argent. Donc, c'est bien beau penser à la future Top Gun et à la future agence de mobilité infra, mais il est où l'argent pour financer le transport collectif? Pendant 6 ans, ils ont livré 0 projet en transport collectif, la CAQ, 0.
Est-ce que c'est un détournement de réponse aux questions aussi par ces agences-là qui sont créées du genre, ben nous, vous pouvez nous questionner, mais c'est pas nous qui lidons le projet, il faudrait la questionner elle, par exemple, Mme Biron?
C'est de la bureaucratie, pour moi. C'est un ajout d'une couche supplémentaire. Les Québécois n'ont pas besoin de ça. Les Québécois veulent des services, que ce soit en santé, en matière de transport collectif, et ils veulent un gouvernement qui est responsable. Pour moi, ce gouvernement est irresponsable. Ils ont perdu le contrôle des finances publiques. On est rendu à 14 milliards de déficit. On n'a plus d'argent pour financer le transport en commun et on le voit clairement. C'est une fuite de ces ministres. Ils négligent leurs responsabilités.
Est-ce que vous avez fait ça auparavant au Parti libéral quand vous étiez au pouvoir? Est-ce que c'est une histoire de politique? Est-ce que c'est lorsqu'on est au pouvoir, on joue un peu la même game, mais un peu différente pour que quand on est à l'opposition, on soit capable de trouver des choses qui sont un petit peu différentes? On a des textos comme quoi, il y a 10 ans, libéraux au pouvoir, c'était un peu la même chose, différemment, mais quand même, on avait moins de clarté, pas de transparence.
OK. Premièrement, le Parti libéral n'a jamais créé Santé Québec et on a voté contre. Le Parti libéral n'a pas créé l'agence de mobilité infra. Ça a été un projet au sein du ministère et jamais, depuis 2013, hein, il y a beaucoup de partis qui ont flirté avec l'idée de l'agence, notamment le Parti québécois, nous aussi, parce que nous, mais ça a été à l'intérieur de l'appareil gouvernemental, mais ça n'a jamais été le cas. On n'a jamais donné suite à la création de l'agence. Le problème, c'est qu'un gouvernement qui n'a pas de vision, à l'intérieur du ministère, il y a des gens très compétents qui peuvent avoir une orientation par rapport à la mobilité durable, par rapport au transport collectif. Mais Mme Guilbeault avait une autre idée, c'est créer une autre structure, sachant qu'ils ont perdu le contrôle des finances publiques. Ils ne peuvent pas aujourd'hui expliquer aux Québécois comment on coupe en santé et elle va nommer un PDG de Mobilité Infra-Québec dans quelques semaines avec un minimum de salaire de 200 à 300 000. 350 000, je pense, si ma mémoire elle est bonne. Mm-hmm. Comment expliquer ça aux Québécois?
Ça va être difficile, puis je pense que la plupart des Québécois sont un peu plus de votre bord que du bord de Mme Guilbeault dans ce dossier-là. Hier, je regardais la déclaration aux médias qui a été faite dans le dossier du REM. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. On disait que devant l'incapacité de notre opérateur formé de Alstom et Atkin Realis à maintenir le service aux usagers, des mesures modifiant les horaires de tarification seront mises en place. Le REM, en raison de la neige et tout ça, ils ont beaucoup de difficultés. Puis la semaine dernière, on apprenait aussi que le système d'autobus en Montréal n'avait pas le droit d'emprunter le même chemin que le REM parce que le REM desservait déjà ça. Donc, c'était une entente avec les autobus à Montréal qu'il n'y avait pas le droit de desservir le même trajet parce qu'on voulait mettre plus de monde dans le REM. Ce qui faisait en sorte que les gens n'avaient pas de solution. Donc, les gens prenaient leur voiture s'ils pouvaient le faire ou prenaient une autre solution pour se mouvoir. À Québec, en quoi ça va être différent? Ça? Moi, je suis pour le transport en commun. J'ai de la misère parce qu'on nous dit ben on va avoir le tramway. OK, je ne connais pas le tramway. J'ai embarqué quelques fois dans un tramway, mais de la façon dont on va le définir, le nouveau tramway ici à Québec, est-ce qu'il va être différent de ce qu'on peut vivre ailleurs? La neige et tout ça, est-ce qu'on a l'argent pour le tramway? Est-ce qu'on s'assure d'avoir l'infrastructure nécessaire justement pour la neige? Montréal est complètement paralysé là, avec le REM et la neige. Quand on va l'avoir ici, ça va être le tramway le plus cher du monde du pied carré, de ce que je comprends. Là. Mais est-ce qu'il va être fonctionnel?
Ben, je l'espère en tout cas, parce qu'avec ce qui se passe à Montréal, j'espère que les décideurs qui vont suivre le projet vont bien faire leur travail. Parce que je ne peux pas concevoir qu'ailleurs dans le monde, ça fonctionne et ça ne fonctionne pas à Montréal ni à Québec au futur. Mais vous savez, ce qui m'inquiète dans tout ça, là, c'est qu'on va laisser de l'argent d'Ottawa aller dans une autre province canadienne. Pour moi, là, en tant que Québécois, je vais tout faire pour me battre pour garder l'argent au Québec.
Mais est-ce qu'on pourrait modifier le projet puis avoir cet argent-là quand même?
Ben écoutez, regardez le nombre de projets que l'Ontario a eu en matière de transport collectif. Si ma mémoire elle est bonne, on parle de 12 milliards. On peut chercher parce qu'il y avait un article où on n'avait aucun projet soumis. Quand je vous dis que ce gouvernement n'avait pas en tête une vraie vision de développement de la mobilité durable et du transport collectif, on laisse de l'argent sur la table pour les autres provinces canadiennes. Maintenant, on a perdu 6 ans avec la CAQ pour avoir le début du commencement du tramway. S'ils avaient la volonté, on aurait dû être ailleurs dans ce projet et réclamer d'Ottawa notre part due par rapport à la mobilité durable et du transport collectif.
Parce que le projet va coûter plus cher qu'escompté. Jean-Yves Duclos nous avait dit que l'argent était réservé. Là, devant le fait que Pierre Poilievre a des chances de remporter l'élection, c'est pas encore fait, mais il y a des chances de remporter l'élection. Les libéraux disent au fédéral, ben savez-vous quoi, demandez à Pierre Poilievre, là, parce que c'est peut-être lui qui va devoir débourser le montant supplémentaire. C'est comme si il n'y a plus personne qui était responsable de quoi que ce soit. Puis à Québec, ben là, est-ce que le tramway, vous êtes encore pour le tramway, le Parti libéral? Puis qu'en est-il du troisième lien? On va terminer avec ça.
Ah oui, je vais revenir sur le troisième. Mais vous savez quoi, ce que je trouve déplorable, c'est que nous avons perdu 6 ans et ça nous coûte de l'argent. Et au lieu de demander plus à Ottawa, parce que oui, il y a une chicane à Ottawa, moi je suis député provincial, ce qui m'intéresse, c'est ce que ce gouvernement a fait pour avancer le tramway. Ils ont tout fait pour retarder le tramway. Ils ont préféré faire une élection d'une manière populiste pour vendre aux gens le troisième lien que dire « il y a de l'argent sur la table, on va tout faire pour aller la chercher ». Mais pas uniquement cet argent, on va faire d'autres demandes pour la mobilité durable. Monsieur Legault se compare toujours avec l'Ontario. C'est honteux. Quand je vois ce que l'Ontario a eu du fédéral pour la mobilité durable et le transport collectif, et ce que nous, en tant que Québécois, nous avons eu pour le transport collectif. C'est ça, pour moi, qui me préoccupe. C'est qu'il n'y avait pas de leadership, ni de la part de M. Legault, ni de la part de Mme Guilbeault, ni de M. Bonnardel quand il était ministre du transport. Ils n'ont pas réclamé à Ottawa l'argent nécessaire pour le transport collectif. Et on se ramasse aujourd'hui à être entre le fédéral qui à ses enjeux, mais moi je blâme Legault et ses collègues qui n'ont pas fait pour avancer le dossier.
En 30 secondes, mon chef de régie, le troisième lien.
OK. Le troisième lien, il faut le décortiquer en deux volets. Le premier volet, il y a un réel problème de mobilité sur la rive sud de Montréal à Lévis. Et ce problème...
La rive sud de Québec.
La rive sud de Québec, excusez-moi, Montréal. Allez, voilà, un gars montréalais qui se rappelle. OK, je suis désolé. Je retire ce que je viens de dire. La rive sud de Québec. Ouais. Il y a un problème à Lévis de mobilité qui n'a jamais été réglé. Et ça, par exemple, je me base sur quoi? Sur le rapport de la Caisse de dépôt. Maintenant, vous allez me ramener sur l'inter-rive. Ça, c'est un autre problème. Et démontrer au niveau du rapport de la Caisse de dépôt, ce n'est pas justifié. Parce que si on ne règle pas le problème de mobilité sur la rive sud de Québec, à Lévis, il y a un problème de mobilité.
La Caisse de dépôt, c'est CDPQ?
Oui,
c'est CDPQ. Ils font quoi, eux autres? Ils font du transport en commun?
Ben, vous avez vu, leur rapport, il est pas mal détaillé.
Ils vendent quoi, eux autres? Ils vendent du transport en commun? Ça aurait été quoi leur avantage de vendre un pont alors que ce n'est pas dans leur contrat?
Écoutez, je ne pense pas que je vais aujourd'hui critiquer la rigueur.
Je suis un peu méfiant.
Ah oui, mais vous avez le droit, vous avez le droit. Mais sérieux, moi, je pense que le rapport que nous avons eu est un rapport béton qui confirme beaucoup de rapports du ministère des Transports. Parce que même maintenant, regardez les options que les fonctionnaires, ils ont collées dans les médias. C'est rendu que les fonctionnaires, même de Mme Guilbeault, détestent les scénarios, qu'ils savent qu'il n'y a personne qui va les écouter et ils se sont adressés aux médias pour coller les scénarios du troisième lien.
Mais pour mon chef de régie, un troisième lien, est-ce que ce serait bien ou pas? Parce que c'est une drôle de situation dans laquelle on est à Québec. Là, j'ai plus de temps, monsieur de régie.
Invitez-moi une deuxième fois.
Mais Yannick, tu peux continuer si jamais.
Parce que la majorité...
Je vais jouer dans l'horaire.
OK, parfait. Parce que la majorité des gens veulent un troisième lien et une minorité de gens veulent un tramway. Alors que les politiciens, la majorité des politiciens veulent un tramway et la majorité des politiciens ne veulent pas de tramway. C'est comme si les politiciens allaient à l'encontre de la demande de la population alors que c'est nous qui vous avons mis au pouvoir. C'est particulier quand même.
Ben, vous avez raison. Et c'est ça que la CAQ a compris. La CAQ a compris, sans troisième lien, ils ne vont pas gagner, donc ils doivent continuer à mentir à la population. Est-ce que vous avez vu le début du commencement d'un troisième lien depuis que la CAQ est élue? Donc, vous voulez qu'on continue à parler de ce mensonge? Si vous voulez qu'on continue à parler, vous voulez qu'on parle en réel?
Monsieur de Ragé, moi, je veux sauver de l'argent, OK?
Aucun problème.
Actuellement, le pont de l'île d'Orléans, on doit le refaire. C'est terminé.
C'est déjà fait.
On doit en faire un à côté. C'est quoi un genre de 300 millions, 400 millions, 500 millions qu'on va mettre à cet endroit-là?
Non, plus.
Plus. On n'est pas dans les milliards, M. de Ragy. Ouais. C'est autour de maximum 500 millions pour le pont de l'île d'Orléans. Peut-être que Pascal pourrait me dire le chiffre exact. On a 500 millions déjà là. Mm-hmm. Pourquoi pas faire l'autre côté aussi, M. de Ragy?
M. Marceau, vous êtes un gars très intelligent. Je vous ai dit au début...
J'ai toujours sauvé de l'argent.
Oui, oui. Ouais. Comme vous.
Parce que j'étais un cheap.
Non, ouais. Vous êtes un gars responsable.
On t'est rendu à 2,75 milliards. Ah, pour voilà.
J'avais... J'avais en tête des milliards, pas millions. Hein?
Donc, on est à 2,5
milliards. C'était 400 000 par tête. Là.
Oui, ça, c'est justifié. Là, maintenant, revenons au troisième lien.
2,5 milliards pour relier la rive nord à l'île d'Orléans. Mm-hmm.
2,75.
Vous ne me dites pas que vous êtes contre l'île d'Orléans. C'était une très belle île.
J'adore l'île d'Orléans. Mais je ferai un petit bout de l'autre côté aussi.
C'est qu'on rallierait peut-être les deux projets.
On ferait les deux en même temps.
Oui. Avez-vous une idée sur le coût et si c'est faisable ou pas?
Pas encore.
Moi, je ne suis pas un expert dans l'aménagement territoire ni dans les structures. Par contre, moi, je me base sur les faits. Le rapport de la Caisse de dépôt, il est très clair, M. Marceau. Quand vous lisez ce rapport, je vous ai dit au début, il y a un problème de mobilité sur la rive sud de Québec. À Lévis, il faut régler ce problème. Ça a été plus facile de vendre un troisième lien que dire on va s'asseoir et trouver une solution à la mobilité sur la rive sud de Québec.
On a un fer à cheval. Là. C'est pas le fun. Là.
Ouais.
Faut relier Québec à Lévis à l'est de la ville. On n'aura pas le choix. Là. Un jour, on va être rendu là. Vous avez les mêmes valeurs fondamentales pour ce qui est des enfants. Moi, je pense à l'avenir de nos enfants. Je pense à l'avenir de nos petits-enfants. Contrairement à ce que ceux qui étaient là avant nous, eux, ils avaient un besoin et réalisaient leurs besoins immédiats, ce qui fait en sorte qu'on a eu Henri IV à deux voix pendant des années, jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui dise « ben, ça nous prendrait un Henri IV à trois voix ».
Ouais.
Ben, je veux bâtir pour demain, je ne veux pas bâtir pour aujourd'hui.
Mais...
le fer à cheval, il faut le régler, ça n'a pas de bon sens. On est à mancher, on est mal à mancher, M. de Régis.
Le pont qu'on a maintenant, il est fonctionnel et sécuritaire. Ce n'est pas moi qui le dis, là, ce sont les rapports du ministère du Transport et
quand
Mme Guilbeault.
Vous parlez du pont fonctionnel, vous parlez du pont Pierre-Laporte.
Oui.
Il y a de ça quelques années, on voulait remplacer des pièces sur le pont Pierre-Laporte et les ingénieurs du gouvernement de l'époque ont dit l'équipement qu'on va devoir mettre sur le pont Laporte pour remplacer ces pièces-là, c'est trop lourd, on ne signe pas pour ça. Après ça, ils ont dit ah, ben, c'est peut-être le syndicat et tout ça qui voulait entrer dans la danse.
Et là, Mme Guilbeault elle-même, après avoir gagné la dernière élection, il est venu avec 1000 pages pour dire le pont est sécuritaire.
Vous n'avez pas ça numérique, vous autres?
Hein? Bon, ben, elle a dit qu'il a lu les 1000 pages, là. Souvenez-vous de sa fameuse conférence de presse.
Ben oui, on avait parlé ici.
Il était la chef de l'escouade anti-troisième lien. Oui. Quand je vous dis, là, c'est facile d'être populiste aujourd'hui, dire, écoutez, là, la population veut le troisième lien, régle. Il y a un problème de mobilité, M. Marceau.
Les policiers doivent travailler pour leur population, pas pour leurs propres intérêts.
Oui, mais dire aussi la vérité. Dire la vérité aux gens. Je vous ai dit au début, il y a un problème de mobilité à Lévis. Il faut le régler. Il y a un problème de mobilité. Ce n'est pas réglé. Il n'y a aucun projet de transport en commun sur la rive sud de Québec. Il faut régler la mobilité sur la rive sud de Québec. Je le dis, je redis.
Maintenant, le Parti libéral proposerait quoi dans un avenir rapproché?
Nous, on a déjà proposé qu'il y ait une vraie commission pour s'entendre sur la mobilité dans la grande région de la Capitale-Nationale, incluant la Capitale-Nationale et la rive sud de Québec à Lévis. Nous avons parlé avec les partenaires sur la rive sud. Il y a un enjeu de mobilité. Donc, pour nous, au Parti libéral, c'est très clair. Il faut absolument régler le problème de la mobilité. Par rapport au troisième lien, les études le démontrent. Vous avez vu les dernières études coulées par les fonctionnaires? Ça ne tient pas la route. À moi, si on veut ajouter un pont à côté de deux ponts et ça coûte 10 milliards ou 12 milliards ou 15 milliards, écoutez, si la population sait ce qu'il veut, il va y avoir un autre pont à côté des anciens ponts.
Ce que les ingénieurs du gouvernement m'avaient dit, c'est que l'endroit le plus logique actuellement, ça serait de rajouter un pont exactement à côté
des
deux.
Et ça, M. Marceau, vous l'aimez?
Ben non, pas du tout.
Ben voilà. Je vous ai dit que vous êtes un homme intelligent. C'est ça la solution.
On a 2,5 milliards qu'on met sur l'île d'Orléans.
Et il est en fin de vie. Ce pont. Est-ce qu'on va laisser tomber et laisser les gens sortir en chaloupe de l'île d'Orléans?
On peut utiliser cet argent-là pour traverser l'autre bord aussi en même temps et desservir les gens de l'île d'Orléans.
Si c'est possible. Je comprends que.
400 000 piastres par tête.
Parce que nous, on dit souvent que les politiciens nous expliquent pas assez, nous imposent. Puis quand ça fait pas notre affaire, ben on réfute, mais en n'ayant pas nécessairement les informations pour réfuter parfois, là, en tant que citoyen. Normaux qui n'ont pas les papiers devant eux ou qui ne suivent pas à 100% l'actualité. Nous, c'est notre job, c'est plus facile. mais il manque quand même beaucoup de proximité avec l'électorat dans les explications. Vous nous aimez pas de refuser tel projet, on va vous expliquer pourquoi on le refuse. Après, au moins, vous aurez peut-être la compréhension de. Au lieu d'une imposition, je parle pas dictatorial là-dedans, pas du tout, mais il manque de transparence avec l'électorat et les politiciens.
Mais vous avez raison, c'est un point important. Mais comment expliquer aujourd'hui que Mme Guilbeault, qui était la chef de l'escouade anti-troisième lien, faisait sa conférence de presse en disant à tout le monde, les ponts sont sécuritaires, il n'y a aucune étude qui justifie un troisième lien. Ils ont perdu l'élection de Jean Talon, c'est ça le populisme. Oui. C'est ça que je déplore aujourd'hui. Moi, là, je ne vais pas prendre les gens de Québec, de la capitale nationale, pour des valises. Jamais, jamais, jamais. C'est contre mes valeurs.
Est-ce que nous, on se laisse prendre pour des valises, selon vous?
Bah, probablement, non. Non, les gens sont très intelligents. Les gens, ils ont compris le message de la CAQ. Ils ont compris qu'ils ont utilisé les gens pour des valises. Et ils savaient que pour gagner la capitale nationale, ça prenait un troisième lien. Moi, je ne vais pas jouer dans ce film. Et je sais que c'est difficile, mais je défie le gouvernement de mettre sur la table toutes les études.
Mais il n'y aura pas plus. Est-ce qu'il va y avoir plus de députés libéraux à Québec si vous allez à l'encontre de la demande de la population? Parce que l'idée, c'est à un moment donné, c'est de reprendre le pouvoir.
Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on doit être transparent avec la population.
Entièrement d'accord.
On se base sur les études qu'on nous avons d'ingénieurs. Je veux bien vendre un troisième lien. Je vous ai dit tout à l'heure, la solution proposée...
Je vais être tanné avec vous, M. Delagier.
Pas de problème.
Le système de santé a été mis en place par des ingénieurs qui ont pensé tout ça. Est-ce que ça fonctionne?
Ben, à date, clairement, ça ne fonctionne pas parce que le gouvernement a préféré me lancer Santé Québec au lieu de focusser sur la première ligne.
Mais les experts au Québec ont contribué à la société dans laquelle on est actuellement. Est-ce que ça fonctionne? Parce que je comprends qu'on doit se fier sur les études puis des gens qui ont étudié longtemps là-dedans, mais à un moment donné, ils font passer leurs propres intérêts avant même peut-être le besoin de la population d'avoir un troisième lien. Mais Monsieur Deragie, des fois, là, je parle avec des gens qui sont à l'extérieur. Là. Je parlais avec un Mexicain, puis il me disait, vous autres, de quoi vous jasez à radio? Je dis, ben, nous autres, depuis 3-4 ans, là, même 5 ans, on parle d'un troisième lien. Il dit, OK, nous, on parle de la criminalité, on parle des vrais enjeux. Nous autres, quand on a besoin d'un pont, on le fait, puis on se pose pas la question. Nous, là, depuis ma naissance, Monsieur Deragie, on me parle du pont de Québec, qu'il faut le repeindre. Depuis ma naissance. Je sais que ça n'a pas de l'air de ça parce que je mets de la crème, là, mais
je
suis rendu à plus de 4 décennies et le pont n'a pas toujours été. Il n'est toujours pas repeint. Là. Puis il va y avoir des pièces à remettre en place pour ce qui est du pont de Québec. Bien, ça, là, c'est tous des experts, comme vous me dites, qui ont pensé à ça. Puis on est dans le trouble avec le pont de Québec. Là. Fait que quand vous me dites, ah, la caisse a dit que le troisième lien, oui, mais c'est parce que c'est des PQ, ils vendent du transport en commun. Pas de pont.
OK, on peut oublier la caisse quelques secondes.
Ça fait du bien.
La solution, un pont à côté du pont actuel qui risque de coûter 10-15 milliards. Vous êtes pour?
Ça, j'imagine que vous allez me dire que vos spécialistes vous disent que c'est la meilleure place. Moi, c'est ce que les ingénieurs m'ont dit. Actuellement, M. Deragie, là,
c'est le rapport qui est coulé.
Ingénieurs privés, ingénieurs qui travaillent au gouvernement disent si vous voulez un troisième lien à Québec, c'est à la place des deux autres.
Excellent. C'est ce que j'ai entendu moi aussi. Est-ce que vous êtes pour?
Ça n'a pas de bon sens.
Ben voilà! Mais écoutez,
parce que ça ne règle pas le problème du fer à cheval.
Ben vous êtes d'accord avec moi?
Dans toutes les villes du monde entier, il y a des voies de dégagement. Supposons qu'il y a une problématique là, on passe par l'autre côté. Mais nous autres, nous autres, on a des experts de la Caisse de dépôt et de placement qui, eux autres, nous vendent actuellement du transport en commun. Ces experts-là disent un pont, c'est pas justifiable.
Sauf que ce que tu avances, Yannick, si c'est le cas, assurément, il faut une enquête. Parce qu'après... C'est biaisé, ce sont des rapports qui sont quand même assez intrigants. Si ce n'est pas le cas, puis qu'on oublie peut-être le fait qu'ils travaillent pour le transport en commun majoritairement et autres, OK? Alors, dites-nous pourquoi c'est dans une incapacité, une impossibilité totale de faire ce projet-là, avec tous les arguments, que ce soit en matière de transport écologique ou autre, possibilité, scraper, vous congestionner encore plus. Dites-nous de façon réelle, parce que là, effectivement, je comprends que maintenant, dans ta tête, toi, en tant que commentateur de l'actualité quotidienne, plus des citoyens, plus d'autres gens, des experts qui disent le contraire,
Chercher Caisse de dépôt et de placement du Québec, marquez juste à côté pot de vin, vous allez tomber sur des articles qui vont vous faire peur comme pas possible. Vous avez entendu parler de ça, ce qui s'est passé en Inde? Là.
Oui, en Inde, oui.
Ben, c'est des gens de la Caisse de dépôt et de placement. Puis il y a des enquêtes là-dessus qui se sont faites, puis il y a des gens qui sont en cours présentement dans ces dossiers.
Mais moi, je vais revenir à ma question.
Mais moi, ça, je veux dire, on a besoin d'enlever ce fer à cheval-là. Puis quand même que vous me dites que les experts qui ont bâti le beau Québec dans lequel on est sont pas du tout d'accord avec ça, la majorité des gens qui élient les politiciens veulent un troisième lien, sont tannés d'être pognés dans le trafic.
Bien, l'île d'Orléans, il ne faut pas oublier, c'est des terres agricoles, il y a le contexte, il y a beaucoup de choses. Mais moi, je reviens à ma question. Ce qui circule maintenant au gouvernement, c'est l'option d'un pont à côté d'un pont qui risque de coûter entre 10 et 15 milliards. Ça risque d'être ça, l'annonce de Mme Guilbeault au courant des prochains jours. Il y a une consultation demain et après-demain, une à Lévis et une à Québec, sur le troisième lien. Si c'est ça la solution...
Comment être pour?
Moi, j'aimerais bien, en ce moment-là.
J'aimerais bien que vous demandiez aux auditeurs et c'est ce qu'ils veulent.
Vous allez faire comment pour gagner les régions de Régie? Parce qu'à Montréal, les libéraux sont bien en vue, sont bien en place. Moi, je vous l'ai dit, chez les libéraux, vous êtes mon préféré. Vous allez faire comment pour gagner les régions? Gagner la région de Québec, aller sur la Côte-Nord ou la Gaspésie?
Ben, on est en tournée et il y a une course au leadership. Et la plupart des candidats font des tournées dans toutes les régions. Et vous savez, je suis allé dans au moins deux ou trois régions. Le son de cloche que j'ai eu... c'est qu'on était bien traité par les libéraux que par les caquistes maintenant. Vous savez, ce qui circule dans deux ou trois régions, ça sert à quoi avoir un député caquiste? Vous savez, il y a deux ou trois semaines, les députés caquistes déposent des pétitions pour réclamer quelque chose à leur propre gouvernement. Leurs propres collègues votent contre leur pétition. Et c'est le Parti libéral qui demande la saisie de ces pétitions. Ça veut dire qu'il interpelle les membres de la CAQ à venir discuter de cet enjeu, notamment un hôpital en Abitibi, l'enjeu de sécurité routière en Abitibi, la traverse de Rivière-du-Loup. Ben, ce sont des enjeux.
Les gens qui m'écrivent, nous, on est les auditeurs et on veut des ponts à l'Est.
Ah voilà, ils veulent l'Est.
Ben, mais ils ne sont pas stupides non plus. Si on nous expliquait pourquoi ça ne se ferait pas à l'Est,
les gens vous apprécient beaucoup, M. Deragy.
Ben, merci beaucoup pour l'invitation.
Merci beaucoup de votre passage. Puis écoutez, si vous voulez revenir dans quelques semaines, on se trouvera quelques sujets à jaser. Là. Je ne vous manquais pas de sujets à jaser, visiblement.
Non, non. Je peux venir. Il est toujours agréable de venir échanger avec vous.
Avez-vous écouté le hockey des Quatre Nations?
Ah, écoutez, là, ce soir-là, là, j'ai jamais crié Canada, Canada, Canada. Et je pense que ça nous fait du bien en tant que Canadien de sentir cette fierté de chanter l'hymne national. Ouais. Moi, ça m'a fait de quoi?
Ça nous éloigne de la politique, ça nous éloigne des chicanes. Puis tout d'un coup, c'est 40 millions de Canadiens qui sont très heureux de l'être.
Mais là, la chicane et la politique, on n'était pas tant éloignés. Moi, j'ai trippé sur le match parce que c'était très politique.
Mais on a senti la fierté d'être Canadien et ça, c'est très important.
Ouais.
C'est rare.
Oui, oui.
Ouais.
Monsef Deragy, député de Nelligan, du Parti libéral du Québec, leader parlementaire. C'est toujours un plaisir.
Merci beaucoup. Au revoir. À vous deux.
Bye bye. Au revoir. 13h16, on revient. Boulevard 102.1.